La liturgie de ce dimanche nous propose, chers frères et sœurs, une parabole fascinante de l'Évangile selon saint Matthieu. Remarquez que cette parabole aborde une fois de plus la place de l'argent dans la vie sociale, le rôle de l'économie. Il est intéressant de noter que tant de paraboles et d'enseignements de Jésus qui impliquent de l'argent se trouvent en particulier dans l'Évangile de Matthieu. Par exemple, la parabole des talents, celle du serviteur impitoyable, ne se trouve que dans l'Évangile de Matthieu. Rappelons-nous que Matthieu est présenté au chapitre 10 de cet évangile comme un ancien collecteur d'impôts. En tant qu'ancien collecteur d'impôts, ces paraboles mettent en scène le rôle social de l'argent et ces paraboles auraient pu facilement trouver une résonance chez lui. Cela pourrait même se révéler être une preuve intéressante, interne au premier évangile, pour corroborer l'attribution traditionnelle de l'évangile à l'apôtre Matthieu. Mais laissons là cette question de l'attribution aux spécialistes. Quoi qu'il en soit, en quelques versets, la parabole nous transporte dans la Palestine du 1er siècle, à la saison des vendanges, se trouve sur la place du village des chômeurs, des sans-emploi, affalés, écrasés par le soleil d'été. Ils espèrent une embauche, car il faut bien nourrir la famille. Ils seront payés à la journée, au minimum, par un unique denier, à la merci des fantaisies de l'employeur. Ce n'est pas une parabole facile à déchiffrer. Comme le remarquent les exégètes, les couches rédactionnelles sont ici multiples, complexifiant cette parabole qui résiste à la réduction à un sens simple et univoque. D'emblée, il faut dire que cette parabole n'est pas un reproche aux lève-tôt parmi nous qui sont allés dès le matin de leur vie dans la vigne et qui y travaillent fidèlement et joyeusement. La parabole ne prône pas non plus la procrastination qui canoniserait les malins qui attendrait la 11e heure pour se mettre au travail. Comme les paraboles du chapitre 15 de l'Évangile selon saint Luc, cette parabole s'adresse très probablement aux pharisiens qui avaient tendance à se mettre en colère comme le fils aîné d'une célèbre parabole ou à murmurer comme le serviteur mauvais et paresseux qui a peur de son maître et qui pense que son maître est quelqu'un de dur, quelqu'un qui moissonne là où il n'a pas semé, quelqu'un qui ramasse là où il n'a pas répandu le grain. Dans la parabole de ce dimanche, le murmure ne vient pas d'une défaillance de la part du maître, mais de la miséricorde manifestée à un autre. Par là, Jésus veut montrer à ses auditeurs que la bonté de Dieu dépasse les catégories humaines, de la rétribution conçue comme un salaire dû, sans pour autant verser dans l'arbitraire qui méconnaît la justice. Jésus les invite à ne plus se montrer jaloux devant la libéralité de l'amour de Dieu. Comment Dieu est-il juste? Comment pouvons-nous l'appeler juste après avoir vu la manière dont il distribue le salaire aux ouvriers en fin de journée? Jacques Maritain résume ainsi notre problème. Il dit, il est dans les mœurs de Dieu une autre perfection, c'est que jamais il n'omet et ne délaisse la miséricorde pour la justice, ou la justice pour la miséricorde. Jamais, en effet, il ne juge ou ne condamne sans miséricorde. Jamais, lorsqu'il fait grâce, la justice n'est blessée. En nous, autres, malheureux, si nous efforçons de garder la justice, la miséricorde s'éteint dans notre âme. Et si nous ouvrons notre cœur à la miséricorde, c'est alors la justice qui est ensevelie. Mais l'Écriture nous recommande l'une et l'autre en même temps. Que la miséricorde et la vérité ne t'abandonnent jamais, Proverbe. Et le psalmiste dit, « Je vous chantais devant vous, Seigneur, la miséricorde et la justice. » Un autre écrivain, Olivier Lacombe, ajoute, « C'est le secret de l'harmonie en Dieu d'attributs qui nous paraissent à nous difficilement conciliables à cause de l'exigence absolue qu'enferme chacun d'eux. » Dieu veut que nous ayons le même cœur, la même attitude que lui. Un cœur qui sait festoyer et se réjouir dès que et chaque fois qu'un frère, une sœur qui était mort revient à la vie. Dès qu'un frère, une sœur qui était perdue est retrouvée. Comme le Fils doit ressembler à son Père, Dieu veut que nous fassions cela de manière spontanée et naturelle. Il n'y a pas de place pour la jalousie et la rancune dans la maison du Père. La charité bannit toute jalousie. Et là où il n'y a pas de jalousie, la diversité nourrit la concorde, dit saint Augustin. Non seulement Dieu veut-il que nous nous réjouissions avec lui lorsque quelqu'un revient vers lui, mais aussi aime-t-il que nous prenions l'initiative d'aller chercher nos frères, nos sœurs, dès le matin, comme un père de famille qui part à la recherche de ses enfants perdus. Dieu ne souhaite pas que nous réagissions comme Josué dans le livre des Nombres, lorsque un jeune homme court annoncer à Moïse que deux hommes prophétisent dans le camp, Josué recommande à Moïse de les empêcher. Et vous savez, vous vous souvenez de la belle réponse de Moïse. C'est exactement l'attitude que le Seigneur veut que nous cultivions. Serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes. Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. Notre Dieu, chers frères et sœurs, est un Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Ainsi, la parabole de ce matin s'adresse à tous ceux et celles qui se reconnaissent dans les paroles du fils aîné de l'histoire de l'enfant prodigue. Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est revenu après avoir dévoré tes biens avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Dieu veut manifester sa tendresse envers les pécheurs. Il veut les sauver. Voilà pourquoi Jésus, son envoyé, s'intéresse de si près à ces gens. Mais cette attention choque en retour ceux qui estiment avoir plus de droits aux attentions divines que ces nouveaux arrivants qui reviennent après avoir dévoré tout le bien de son Père. Comme si, en sauvant les pécheurs, Dieu enlevait quelque chose à ses fidèles. Pourtant, Jésus affirme bien que dans la maison de son Père, il y a de nombreuses demeures. La première lecture nous rappelle que les voies de Dieu sont totalement différentes de la pensée humaine. Les chemins du Seigneur sont élevés au-dessus de nos chemins et ses pensées au-dessus de nos pensées. Et il est bien qu'il soit ainsi. À bien des égards, il est réconfortant de penser que Dieu n'est pas comme nous. Là se trouve une des raisons pour lesquelles nous nous accrochons à Dieu, afin d'être libérés de nous-mêmes et des ténèbres, afin de vivre dans son admirable lumière. Le royaume est le don de Dieu par excellence, donné gratuitement à chacun et à chacune. Mais paradoxalement, on ne peut pas acquérir ce trésor essentiel qu'au prix de tout ce que nous possédons. Bien qu'il faille remplir certaines conditions en même temps, pour hériter le royaume, il ne peut jamais être considéré comme un salaire dû en justice. C'est librement et libéralement que Dieu embauche les hommes dans sa vigne et il donne à ses ouvriers ce qu'il lui plaît de leur donner. C'est d'ailleurs ce que nous disons dans la prière eucharistique. Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. À ceux qui, à la fin, répondent à son appel, même quand il ne leur resterait que peu de temps à travailler dans sa vigne, le Seigneur ne réserve pas une moindre récompense que lui-même. C'est le sens de la parabole des ouvriers de la 11e heure. Elle ne signifie pas que qu'un même degré de gloire serait réservé à tous les élus. Plus la charité est grande, dit saint Thomas, plus le désir est grand. Et c'est le désir qui prépare et proportionne à recevoir la réalité désirée. En sorte que plus la charité sera grande, plus la vision de Dieu sera parfaite et la béatitude intense. C'est comme des gens qui s'en vont chercher de l'eau avec des vases de dimensions différentes. Le fleuve s'offre tout entier. Tous, cependant, ne puisent pas également. Ainsi, celui dont l'âme sera plus dilatée par la charité recevra davantage. Alors, quelle que soit l'heure où nous avons commencé, nous sommes appelés à la poursuivre jusqu'au soir. Ce n'est pas avant le soir que nous pouvons toucher le salaire. Isaac de l'Étoile, un écrivain du XIIe siècle cistercien, le dit ainsi, « La persévérance dans le bien est la dernière à venir, mais la première à recevoir. Celui qui s'élevait le matin mais ne persévérait pas jusqu'au soir, Lucifer, ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il a dévié de la charité. » Et saint Jean nous invite encore, « Nous devons travailler pendant qu'il fait jour. La nuit va venir où nul ne peut travailler. » Que le Seigneur, mes chers frères et sœurs, nous donne de le chercher en tant qu'il laisse trouver, de l'invoquer tant qu'il est proche. Maître de la vigne et de la moisson, c'est toi qui répartis les tâches et donne le vrai salaire. Aide-nous à porter le poids du jour sans murmurer contre ta volonté.